Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de féminité, d'entrepreneuriat, de valeurs humaines et d'avancer vers les autres, de rendre service aux autres. Tout ça, c'est possible. Ma femme d'aujourd'hui nous en parle.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nadia Al-Zarq, bonjour.
Bonjour, bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va?
Merci à vous de m'avoir sollicité pour cette interview.
Alors dites-moi, comment se fait-il qu'une étudiante en biologie finisse à la tête d'une grosse boîte d'assurance?
Ben, écoutez, c'est vrai que mes études ne me menaient pas forcément vers cette carrière-là, parce que effectivement, j'avais fait de la biologie pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. Mais on dit que l'assurance, on y arrive par hasard et on y reste par vocation. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai été piquée par le virus, voilà. Et du coup, je suis rentrée, mon premier poste était chez Grâce à Voix pour un stage. Et j'y suis restée 22 ans.
Donc vous y êtes toujours et vous avez fait...
Non, j'y suis plus. Non, j'y suis plus depuis longtemps. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2012. Mm-hmm. Parce que justement, dans ma carrière chez Grâce à Voix, je me suis rendue compte que... la partie gestion, parce que vous voyez, dans l'assurance, on a plusieurs activités, surtout dans le courtage. On a le conseil, le placement, la gestion. Et la gestion, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, parce qu'en fait, c'est en lien avec le service après-vente de l'assurance, qui est un moment important, si vous voulez, dans la vie d'un contrat et pour un assuré, parce que quand on achète un contrat d'assurance, on l'achète, c'est quand même un pari en fait, on n'est pas sûr d'avoir le sinistre. Mais quand le sinistre survient, il faut bien sûr qu'il soit très très bien géré pour satisfaire le client en fait et éviter une quelconque frustration. Mmh. Donc en fait, si vous voulez, toute l'image de l'assurance repose sur la qualité de la gestion.
Exact, exact, et la qualité du service.
Et la qualité du service, exactement. Le service chez nous, c'est la gestion. Mmh. Et du coup, je me suis lancée dans la gestion avec justement l'avènement de la technologie. Ça nous a permis donc de travailler sur des outils qui améliorent justement le traitement des sinistres.
Oui. Et donc, vous êtes restée dans le monde finalement des assurances.
Je suis restée dans le monde des assurances en back office jusqu'en 2018 où j'ai passé mon agrément de courtier. Et donc, j'ai lancé à ce moment-là un courtier digital. Donc, en fait, maintenant, je fais aussi de la distribution, mais à travers le digital.
Mmh. Et à aucun moment, vous n'avez eu ce petit regret au fin fond de vous-même de ne pas vous être lancé dans ce que vous vouliez faire au départ, c'est-à-dire tout ce qui est industrie pharmaceutique?
Très bonne question. Non, pas un regret, mais en fait, j'y pense toujours. C'est dans un petit coin de ma tête.
Incroyable.
Ouais, et je me dis, c'est un peu mon plan B, quoi, on dit, mm-hmm. on dirait. C'est toujours, bien sûr, dans un petit coin de ma tête, c'est une matière qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'assurance, il y a une partie qui est liée à la santé. Et donc... oui, évidemment, mes études me servent quand même dans cette partie-là. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de naturothérapie, de développement durable, etc. Et je pense que mon background me permet de mieux comprendre ces choses, en fait. Et en fait, c'est des choses qui m'intéressent et je voudrais... participer, si vous voulez, contribuer à un changement dans ce sens-là, quoi.
Alors,
donc introduire la naturothérapie qui n'est pas très très appréciée par les assureurs, mais et donc tout ce qui est prévention, médecine douce, médecine naturelle, c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai eu donc l'occasion évidemment d'approcher au moment de mes études.
Absolument. Alors, concrètement, ce plan B, ça serait quoi ? Parce que j'imagine quand on a un plan B, c'est pour arrêter de faire ce qu'on fait, pour passer à autre chose.
Non, pas vraiment.
Pas forcément.
Vous savez, dans la carrière d'un entrepreneur, il y a toujours des downs, il y a des ups, des downs. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Et donc effectivement, quand on est en down, on se pose plein de questions. et puis voilà, quoi, ça fait partie d'un questionnement. Mais c'est pas la preuve, c'est que ça fait 30 ans que ça dure et 30 ans que je reste dans l'assurance. Donc c'est vraiment voilà. Maintenant, ce qu'il faut, là où je serais vraiment peut-être complètement satisfaite, c'est quand je pourrais mettre complètement en symbiose, si vous voulez, les deux mondes, quoi. Le monde biologique et le monde de l'assurance.
De l'assurance. Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes rentré dans le monde des assurances pour votre mère ou bien par votre mère ?
Waouh ! Alors là, vous savez, à 22 ans, on ne fait pas vraiment ce type de
nuances,
raisonnement.
De raisonnement.
Mais en fait, c'était, comment on va dire ? Ben, en tout cas, on va dire, ma mère me l'a proposé pour faire, elle m'a dit textuellement, viens voir si ça peut te plaire. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et j'y suis restée. Donc je pense que non, j'ai pas été manipulée. Non, c'était un choix.
Non, c'est loin de moi l'idée d'insinuer qu'il y a eu manipulation.
Pour ma mère ou par ma... Non, c'est... Ouais. J'étais dedans, en fait, et je réfléchissais plus, quoi.
Ouais,
j'étais dedans. Voilà.
Votre mère, vous dites que c'est votre source d'inspiration.
Oui, absolument.
Dans quel sens, justement ?
Dans le sens de parce que Laïa, c'est une femme qui a été plutôt forte, de forte personnalité... avant-gardiste, qui a réussi dans un monde quand même assez dur à l'époque, où les femmes n'étaient pas encore complètement dans le... D'ailleurs,
c'est un monde assez masculin, le monde des assurances. C'est un monde, pardon...
Mais à l'époque, c'est un monde masculin, exactement. C'est un monde masculin et très conservateur, le monde de l'assurance. Très, très traditionnaliste.
Dans quel sens ?
Dans tous les sens. C'est des gens très prudents, c'est des gens qui n'aiment pas le changement, c'est des gens qui ont peur de l'innovation, c'est des gens qui prennent des risques, en fait, et qui les mesurent.
Ouais.
Donc, du coup, c'est pas des gens qui sont dans le... C'est pas les plus créatifs, quoi. D'ailleurs, ça se voit. La banque, elle a fait sa révolution depuis bien longtemps, alors que l'assurance n'y arrive pas encore. C'est lourd, le monde de l'assurance. C'est pas quelque chose de digeste, quoi.
Ouais.
Et
vous avez su vous adapter à 22 ans à ce monde-là ? J'imagine.
Alors, franchement, ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Il fallait que je fasse ma place, que je trouve ma place. Puis aussi, il y a autre chose qui m'a jamais vraiment, on va dire, satisfaite profondément, c'est le fait que je sois là, que je travaille, que je sois la fille de ma mère. Donc, j'ai jamais voulu qu'on prenne pour la fille de ma mère, dans le boulot en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique certainement que quand j'ai pu faire un choix de voler de mes propres ailes, je l'ai fait, quoi. C'est quelque chose que j'ai jamais assumé complètement.
Le fait d'être la fille de votre mère dans un milieu professionnel.
Exactement, dans le contexte de professionnel. Donc, du coup, j'ai essayé de faire ma place par moi-même, quoi. Et j'ai gravi les échelons. Donc, effectivement, c'était pas très évident. Mais il fallait. C'est moins évident pour la fille du patron que pour quelqu'un d'autre. Enfin, la fille du patron. Je veux dire, moi, je le supportais pas. Peut-être que d'autres le supportent plus facilement.
Ouais.
Mais moi, j'avais l'impression que voilà, qu'il fallait que je double d'efforts pour être
reconnue,
appréciée à ma juste valeur, quoi, et pas à la valeur de ma mère.
C'est ça. Mais voilà. ça pose on va dire un challenge supplémentaire, femme dans un milieu jeune d'abord, femme jeune. Et fille de la patronne.
Ouais, c'est pas évident, mais
pas
moi
facile.
J'ai eu la chance, justement, je pense que moi j'ai fait mes études au Maroc, et je pense que, en fait, j'ai un côté un peu peut-être, comment on va dire, voilà, il y a de l'humilité, certainement, et beaucoup de, comment on va dire, de sociabilité, on va dire, si ça, on a besoin vraiment d'une bonne dose d'empathie, on va dire, pour aussi être accepté, pour installer une confiance.
Oui,
vous voyez,
oui, absolument. Alors,
donc, mais c'est des choses qui servent de toutes les façons. C'est des choses qui servent à un meilleur vivre ensemble, en fait, à prendre conscience du vivre ensemble.
Alors, j'ai quand même une question que je n'ai pas voulu vous poser quand on a eu notre premier échange, Nadia. Vous m'avez dit, j'ai beaucoup de colère en moi. Alors, je me suis dit, bon, je vais réserver ma question à l'entretien. Je ne vais pas, je vais pas brûler les...
Écoutez, ouais, j'ai de la colère parce que, en fait, comment on va dire ? Je trouve que c'est très difficile au Maroc, de toute façon que ce soit pour les femmes ou les hommes, hein, il y a plus de distinction à ce niveau-là. L'entrepreneuriat est très 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 mal reconnu au Maroc, très difficile. Et en fait, pendant longtemps, je n'osais pas en parler. Et quand je me suis mise donc à l'évoquer, mais tout le monde souffre, mais à un point mais inimaginable. Il y a beaucoup d'individualisme.
Dans l'entrepreneuriat ?
Dans le monde économique tel qu'on le pratique, dans le marché tel qu'il est, tel que les affaires se passent au Maroc. Mmh. Après, je parle du Maroc parce que c'est le pays que je connais, c'est là où j'évolue, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas par rapport à d'autres pays. Hein.
Oui.
Vraiment par rapport au contexte que je connais seulement, donc le contexte marocain. Et je trouve que c'est un contexte difficile et je ne suis pas la seule. Il est difficile pour plusieurs choses. Et la base, si vous voulez, c'est le manque, je pense, de responsabilité. Par exemple, vous adressez à des grandes entreprises. Vous voulez donc vous apporter de l'innovation, des choses créatives, de la valeur, etc. Et en fait, on va toujours essayer de vous dégrader cette valeur d'une manière ou d'une autre. Soit, par exemple, vous n'allez pas être payé dans les temps, ou des fois même pas. Soit on va faire des choses dans votre dos et on va vous jeter sans qu'on ait rien fait, quoi. Vous faites du bon travail, vous jouez le partenariat, mais tiens, en face, il y a un manque de confiance, en fait. Donc, on va faire ces petites affaires. Et puis, le partenaire, on va le jeter sans problème. Je trouve qu'il y a trop d'individualisme. Trop d'individualisme. Et malheureusement, l'économie, c'est une roue qui tourne, quoi. Il ne faut pas que la machine se grippe. Si elle se grippe à un endroit, eh bien, finalement, elle risque même de se retourner contre les gens qui marchent. À un moment donné. Il faut que tout le tissu économique soit dynamique, quoi. Et qu'il rentre dans un dynamisme de marché qui soit, sain.
Donc aujourd'hui, quand on dit aux jeunes, tournez-vous vers l'entrepreneuriat, vous leur dites quoi ?
C'est très dur. Il faut que, franchement, moi, je leur dis, c'est très dur. Je vous dis la vérité, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur au quotidien. C'est dur. Voilà.
Vous n'êtes jamais passé par le salariat.
Si, moi j'étais salariée en 2012.
C'est ça, jusqu'en 2012.
Oui.
Est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a eu ce regret d'avoir lâché le salariat ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a le challenge qui motive vachement. Il y a vraiment, en fait, moi je veux vraiment contribuer à changer les choses. Par exemple, je vois que la petite entreprise, elle souffre. Elle souffre pour gagner des marchés, elle souffre pour être payée, elle souffre pour être informée, elle souffre de tout. Donc du coup, moi je trouve qu'on y a vraiment une solidarité à mettre en place à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je suis mobilisée en ce moment. C'est de nous solidariser autour de la TPME, en fait. Et de faire du business, ce que je dis proprement, entre des gens responsables. C'est ça maintenant mon challenge, si vous voulez. Et je veux dire, je le vis vraiment comme quelque chose de... Voilà, comme mon projet, quoi.
Comme mission. Alors, Nadia Zarak, justement, en tant que femme d'aujourd'hui, vous êtes femme entrepreneur, on est en train de parler un petit peu des hauts et des bas de l'entrepreneuriat que vous vivez. Et c'est très bien ce que vous dites, parce que souvent, lorsqu'on en parle, on parle du volet technique. Et vous parlez du volet humain de l'entrepreneuriat et des rapports... au sein de cet environnement économique-là. Maintenant, j'imagine, ça déteint sur soi. On déprime, on n'est pas bien quand on se prend des coups comme ça.
Non, c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est qu'on se dit c'est triste.
C'est triste, ça déteint sur soi.
Non, mais En fait, vous disiez, on parle plus de l'humain dans cette interview que du volet technique.
Oui.
Mais l'humain, il est vraiment au centre de tout.
Oui.
Mais c'est ça qu'on oublie.
C'est ça.
Le technique, il vient par l'humain. Le technique, il doit servir l'humain. Mm. Mais c'est d'abord les humains qui font le business, c'est pas des machines.
Vous avez raison. Justement,
donc,
tout, mais les émissions...
Et puis même quand, oui. Dans l'entreprise, si vous avez un bon climat social, mais ça change absolument tout. Donc, et le climat social, c'est quoi ? C'est des rapports humains. Donc l'humain, il est au centre de tout. C'est ce qu'on a tendance à oublier.
Oui, c'est ça. Mais souvent, lorsqu'on a des émissions d'économie, des émissions sur l'entrepreneuriat, on parle du projet, on parle du plan d'action, oui. On parle de ces choses-là techniques.
Tout ça. Non,
voilà,
mais oui. On parle pas, tout ça, c'est bien. Les projets, le plan d'action, c'est magnifique. Mais après, le terrain... Ben, c'est qui ? C'est les hommes et les femmes.
C'est ça.
C'est les hommes et les femmes. Donc, c'est la confiance aussi. C'est, voilà, s'il n'y a pas de responsabilité partagée, d'engagement de part et d'autre. D'ailleurs, les anciens, ils disent que le business, il se faisait beaucoup plus sainement avant, parce que les gens, ils avaient beaucoup plus de confiance les uns dans les autres. La confiance existait. La parole, elle était de mise. Aujourd'hui... c'est l'écrit ou rien, quoi.
C'est l'écrit ou rien,
donc,
exactement. C'est
des Et même, des fois, l'écrit, il est remis en cause.
Ouais. Mais alors, justement, Nadia, est-ce que vous avez des enfants ?
Oui.
Oui. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants de se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Oui, parce que c'est... En fait, je vous ai dit, ça dépend des capacités de chacun. Si vous êtes vraiment dans l'esprit de relever des défis, etc., oui, l'entrepreneuriat. Puis il y a des gens qui sont tellement créatifs qu'ils ne peuvent pas ne pas être dans l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas à l'aise ailleurs que dans l'entrepreneuriat. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
Donc ça dépend des capacités de chacun. Mais évidemment que en fait, c'est une question de capacité. Est-ce que vous allez pouvoir... déjà, il y a la capacité financière et il y a la capacité aussi mentale. De résister au haut et au bas, enfin au bas surtout. Quoi.
Surtout, exactement.
Et de ne pas être trop perturbé par les hauts aussi, parce que ça aussi, il faut savoir le gérer.
Ouais.
Donc, voilà, je parlais d'humilité tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit toujours être en tête, quoi. L'humilité, c'est hyper important. Donc oui, l'entrepreneuriat, pour celui qui en a les capacités, c'est magnifique, parce que c'est challengeant, vous découvrez plein de choses tous les jours, même au point de vue humain, vous découvrez des caractéristiques, des traits de personnalité, des comportements, tout ça c'est très intéressant, c'est enrichissant en fait. Mais après, il faut en avoir vraiment il faut en avoir l'envie et les capacités.
Et les capacités à... Est-ce que ça en vaut le coup ?
Je ne sais pas si c'est dans ces termes. Moi, je vois vraiment les choses dans le business comme être utile aux gens. Moi, je m'efface. Moi, je veux apporter de la valeur aux gens. L'assurance, c'est quelque chose qui est hyper important, qui protège financièrement, qui peut vous sortir de situations dramatiques. Et malheureusement, elle n'est pas jugée utile. Par les Marocains en particulier, parce que elle fait pas partie de notre culture, en fait. Donc, du coup, moi, en fait, vraiment, mon challenge, c'est de montrer l'utilité de l'assurance. Donc, c'est pas moi qui suis en jeu. C'est ce que j'apporte au marché. Et c'est ça que je voudrais que les gens comprennent. En fait, on travaille pas pour soi, on travaille pour ce qu'on va apporter, pour ce qu'on contribue à faire dans le marché, dans le monde et dans les changements dont on a besoin vraiment aujourd'hui. On est dans j'ai l'impression qu'on est arrivé à une limite d'un modèle et qu'on a besoin de repenser, quoi. C'est urgent, presque par rapport à l'impact sur notre bien commun qu'est la planète, quoi. Donc il y a vraiment un changement de paradigme,
absolument.
De logiciel, de création de valeur aussi.
C'est ça.
Et aussi c'est pas l'argent qui nous motive, en fait.
Ouais.
C'est ça, en fait, quand vous êtes entrepreneur, il y a aussi cette partie-là. Moi, franchement, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer l'utilité de l'assurance. Mmh. C'est ça qui me tient à cœur. Mmh.
Nadia Zerak, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Je vous en prie, Yasmine, c'était un plaisir d'échanger. Et ben j'espère à bientôt.
À très vite. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.